Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie. Je suis Frédéric, le F de Girafe, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission intitulée « Autour d'eux, autour d'un expert, autour d'un thème ». Cette nouvelle édition est aujourd'hui consacrée à un thème qui peut paraître un peu éloigné et difficile d'accès, mais c'est le but de cet échange que nous allons avoir, c'est de mieux comprendre cette discipline et ce concept s'agissant de la prospective. Et je reçois dans cet esprit Nathalie Popiolec aujourd'hui. Bonjour Nathalie.
Bonjour, merci.
Nathalie Popiolec est présidente d'Adéquate Consulting, une entreprise que tu as créée pour accompagner les entreprises, grandes ou petites, privées ou publiques, à comprendre le présent et surtout préparer leur avenir. Les domaines d'intervention de ton entreprise, de ton cabinet de conseil, sont aussi variés que l'énergie, l'agriculture, l'industrie, la finance, l'espace, l'enseignement supérieur ou la recherche. Ton entreprise s'intéresse à la transformation de ces domaines grâce aux innovations technologiques et organisationnelles, nées de la recherche et développement, comme aussi des idées créatives. Tu es économiste, tu es docteur, habilité à diriger les recherches, auteur à la fois d'articles académiques et d'ouvrages à destination des décideurs, avec comme ligne de force de faire le lien entre ce monde académique et celui de la décision et de la prise de décision. Tu enseignes l'économie, le management de l'innovation et la prospective stratégique à l'université et dans les grandes écoles d'ingénieurs. Tu as été conseillère scientifique à France Stratégie, un service du Premier ministre, et tu as été chercheuse au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pendant 20 ans. Alors sans plus tarder, et pour commencer à éclaircir ce sujet, ma toute première question tombe sous le sens, et c'est justement ce que je te demande, c'est de nous donner une définition, de nous donner du sens par rapport à ce sujet qu'est la prospective. Quelle définition, comment définirais-tu, toi, la prospective, Nathalie ? En te remerciant à nouveau de ta présence.
Je suis vraiment ravie d'être parmi vous sur Radio Girafe. Je suis enchantée de pouvoir parler de la prospective, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. La prospective, pour la définir, je dirais que c'est une discipline qui articule trois éléments. Le temps, passé, présent, futur. L'action, pour la liberté. Et l'imagination, guidée autant par l'intuition que la passion. On comprend bien qu'elle sort des canons académiques, le fait qu'on intègre intuition, passion. Pierre Massé, commissaire général au plan de 1959 à 1966, parlait d'ailleurs d'indiscipline intellectuelle. C'est pour cette raison qu'elle est peu enseignée à l'université, en France notamment. Alors que, paradoxalement, l'école française de prospective est très structurée et mondialement reconnue.
D'accord, oui, donc effectivement, de ce paradoxe, comme tu le disais, naît quand même une discipline et une école française autour de ce sujet qui a toute sa légitimité. Mais en revanche, si on fait un petit retour en arrière, une recherche d'origine, d'où vient la prospective ?
Alors la prospective, elle vient des États-Unis. Elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle vient des États-Unis. Et je souhaite y revenir, approfondir un petit peu cela, parce que c'est important de comprendre les origines américaines de cette science du futur. Mm-hmm. Auparavant, je voudrais parler un petit peu plus de l'école française de prospective, qui a été initiée par des philosophes et des intellectuels de renom, ayant été pour certains des hauts fonctionnaires influents. Donc elle est née à la fin des années 50. Mm-hmm. C'est Gaston Berger, le père du célèbre chorégraphe Maurice Béjart, l'inventeur en 1957 du terme prospective, qui signifie étude des futurs possibles. Ont adhéré ou participé à cette école Pierre Massé, on l'a vu tout à l'heure, donc nommé commissaire général au plan par le général de Gaulle, à l'époque de la planification économique, de la planification industrielle et régionale du pays. Bertrand de Jouvenel, qui fonda la revue Futurible, consacrée à la réflexion sur les futurs possibles, donc Futurible. Le polytechnicien Jacques Le Saulne, qui a été directeur du projet Interfutur à l'OCDE. Donc Jacques Le Saulne a dirigé le monde.
Oui,
voilà, oui, il y a aussi Michel Godet, que je connais bien, fondateur de la chaire de prospective stratégique au Conservatoire national des arts et métiers, qui a fait rentrer la prospective au niveau de l'enseignement supérieur grâce à la chaire qu'il a créée. Yves Barrel, un des premiers sociologues à transposer aux sciences sociales le fonctionnement des systèmes biologiques, et bien d'autres éminents penseurs et acteurs de la prospective. Donc la prospective, elle n'est pas reconnue à l'université, comme elle pourrait l'être, et elle n'est pas toujours bien reconnue non plus dans les hautes sphères décisionnelles, que ce soit au niveau public que privé, en tout cas en France.
Parce qu'on y voit, juste une petite digression, une discipline qui ne maîtrise pas tout, où on se rapprocherait un petit peu pour plaisanter de la boule de cristal de Madame Irma, avec tous les aléas et toutes les incertitudes que cela induit.
Voilà, alors on a, notamment avec l'École française de prospective, on a un socle scientifique pour ne pas justement faire de la boule de cristal.
C'est ça, voilà.
Et on fait des études qui peuvent durer longtemps, qui peuvent prendre beaucoup de moyens, et on constate in fine que les décisions concrètes n'ont pas forcément été prises suite aux résultats de l'étude.
D'accord.
Et c'est dommage. On dit au mieux, ça sensibilise le décideur à voir le monde autrement, avec une vision systémique, à le voir en ouvrant un peu les champs des possibles. Il ne va peut-être pas avoir une décision concrète, mais en tout cas, il va voir le monde différemment. Je pense que c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup,
oui,
et puis
voilà.
Ça peut rapporter gros.
C'est déjà une satisfaction pour toi, qui est convaincu de l'utilité de cet outil qu'est la prospective. Mais on pourrait en attendre un peu plus des décideurs que d'utiliser ce levier comme un outil d'aide à la décision stratégique.
Tout à fait.
Alors on parlait effectivement des origines de cette discipline et notamment de l'origine américaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette dimension américaine ?
Oui, ça ne s'appelle pas prospective parce que c'est un mot français. Mais les exercices de scénario, de prospective, je vais employer le mot, on le vend en poupe de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a de grands instituts de prospective qui sont focalisés sur les enjeux militaires, sur les enjeux géopolitiques. Ils ont pignon sur rue. Qu'on pense à la Rand Corporation, qui est fondée après la Seconde Guerre mondiale, l'Houston Institute et beaucoup d'autres. Ce sont des instituts dont la tragédie du 11 septembre 2001 a relancé encore l'influence. Ils ont été pourvoyeurs de méthodes de prospective, en particulier la méthode des scénarios. La CIA, par exemple, publie périodiquement des rapports sur les enjeux et les risques du futur avec des scénarios qui sont largement diffusés dans le monde entier. Donc, le dernier rapport, publié en juillet 2021, c'est Le Monde en 2040, vu par la CIA.
On pourrait faire, je t'interromps juste une seconde, un petit parallèle sur le processus de l'existence d'Internet. C'est parti des États-Unis, du monde militaire, pour ensuite se capillariser et entrer dans le monde civil et occuper l'espace planétaire, si je peux dire.
Oui, c'est vrai.
Si on peut faire un parallèle.
Oui, voilà, mais c'est sûr que la prospective va être peut-être plus utilisée aux États-Unis qu'elle ne l'est Europe.
En Europe, d'accord.
En simplifiant, puisqu'il y a des endroits où elle est fortement utilisée. Alors justement, je voulais donner l'exemple en France de l'Agence de l'innovation de défense, qui va s'inspirer des méthodes de prospective américaines. La mission de la Red Team est née à l'été 2019. Elle fera se confronter au savoir militaire, la science-fiction, les scénarios de SF, la recherche scientifique pluridisciplinaire et les arts, ce qui a donné lieu à l'apparition d'une série de livres à grand succès public, « Les guerres qui nous attendent ».
D'accord, mais en mélangeant ces disciplines, unes avec les autres, en les croisant en tout cas.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes de science-fiction, mais on va travailler main dans la main avec les militaires, donc sur des questions extrêmement sérieuses,
bien sûr,
pour nous préparer à des éventuelles
situations qui pourraient émerger et exister. D'accord.
Et il y a eu beaucoup de succès à cette mission, la Red Team. Et de fait, elle a évolué vers une nouvelle initiative, l'initiative RADAR,
D'accord.
Son kick-off « Qui veut la paix prépare le futur »
et non pas
a
la guerre.
Été organisé à l'initiative du ministère des Armées en novembre dernier.
D'accord.
Au studio 104 de la Maison de la Radio.
Oui, donc c'est tout récent.
Avec le chef de l'état-major des armées. Donc j'y étais invitée. Le kick-off a commencé avec cette phrase filmée et des images éprouvantes. C'est 2034. Une crise inédite bouleverse notre pays. La nation tout entière est impactée. Santé, production, agriculture, médias, commerce, tout semble terrassé. Quand un matériau omniprésent dans notre quotidien disparaît brutalement, qu'advient-il de l'humanité privée d'une matière devenue indispensable ?
Oui, effectivement, ça pose...
C'est le plastique, la peste du plastique en cause d'une bactérie qui fait se détériorer tout ce qui nous entoure.
D'accord. Oui, donc un scénario de film catastrophe, mais qui, dans cet esprit-là, peut faire l'objet d'une réalité à un moment ou à un autre, d'où la nécessité de se poser la question de comment soit l'éviter, soit le traiter. Quoi. Voilà.
Donc ensuite, on a travaillé à trouver une façon... aujourd'hui, en 2025, d'éviter cette catastrophe.
Cette catastrophe, d'accord.
Des préventions, des mesures préventives.
Alors, si on va au bout de ta réflexion, est-ce que la prospective, c'est de la science-fiction ?
Alors, oui et non. Le but commun des prospectivistes, c'est éviter les catastrophes, préparer un monde meilleur. Mais les méthodes employées sont très variées. Chacun y met son background, pour son savoir-faire, pourvu que la démarche soit logique, rationnelle et relativement scientifique. Parce que la science-fiction, c'est rationnel, enfin, c'est logique. Donc Adéquate, mon entreprise, va mettre en priorité l'analyse économique, le management de l'innovation et la décision avec une vision systémique. C'est sa marque de fabrique. D'autres mettront davantage le curseur vers la sociologie, la philosophie. D'autres encore vers la prévision technologique. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique de l'Europe. D'autres encore, la science-fiction, la futurologie, l'utopie, la prophétie, voire l'art dans certains cas. En fait, la prospective, ça sert à penser au présent grâce au passé, en visualisant l'avenir, peu importe comment on le fait. Quand il peint un œuf... Magritte représente un oiseau majestueux.
Oui, on voit la démarche. Oui.
Donc, c'est oui, l'art c'est... peut aider
exact.
À voir,
oui, tout à fait.
Visualiser un futur désirable.
C'est quelque chose effectivement qu'on n'imagine pas quand on est un peu béotien comme moi. Effectivement, que l'art entre dans cette logique de discipline.
Tout à fait. La science-fiction est un art et elle va appuyer. Les militaires, elle va les aider à comprendre ce qui peut advenir et à éviter la catastrophe. Donc, au fond, la prospective intègre dans sa lecture du temps la notion de progrès. On doit faire mieux les choses demain en étudiant le passé, en comprenant le présent et en envisageant l'avenir.
C'est ça.
Donc, elle est humaniste dans la mesure où elle ne croit pas à la fatalité. Et ça, c'est vraiment le socle de la philosophie prospective. Il n'y a pas de fatalité, mais elle croit à la capacité de l'homme à agir pour forger son destin, dans la bonne direction, bien sûr.
Évidemment.
Donc les crises arrivent lorsqu'on n'a pas su anticiper et agir à temps pour les empêcher. Quand c'est urgent, c'est déjà trop tard, disait Talleyrand. L'urgence résulte des non-anticipations antérieures et la prospective évite les crises.
Oui, c'est quelque chose qui résonne très fort aujourd'hui, sans arrière-pensée aucune. Alors, par exemple, sur des sujets qu'on a abordés d'ailleurs dans le cadre de mes émissions, c'est par exemple la problématique de la transition écologique, ou en tout cas de la crise climatique. Que peut faire, par exemple, sur un sujet tel que celui-là, auquel nous sommes tous confrontés, quand je dis tous, c'est la planète. Que peut faire la prospective pour faire face à cette crise-là, cette crise climatique ?
Alors, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que justement, on s'approche du mur. Donc, la bifurcation est-elle possible avant qu'il ne soit trop tard ?
C'est ça.
Donc, il faut être optimiste. Les prospectivistes le sont. Donc, on va reprendre le fil rouge d'une analyse prospective pour essayer de répondre, sachant que là, on est face au mur. On prend le fil 1, on étudie le passé. 2, on comprend le présent et le jeu d'acteurs. 3, on envisage l'avenir en faisant appel à l'imagination et à la créativité pour sortir de l'ornière, puisqu'il est déjà tard. Et reprenons ces éléments sur le passé. Donc, le diagnostic sur le passé est fait grâce aux remarquables travaux du GIEC sur le changement climatique. Ils expliquent qu'en déstockant les énergies fossiles enfuies, il y a des millions d'années, donc nous avons atteint en 2024 les 1,5 degrés d'augmentation de la température moyenne de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc la combustion des énergies fossiles, qui est préjudiciable à l'environnement et au climat, c'est néanmoins accompagné de progrès social. Les machines ont rendu la vie plus simple, l'augmentation de la production et de la consommation ont créé de la valeur, augmenté les salaires, apporté les vaccins.
Oui, on pourrait multiplier les exemples, effectivement.
Donc, comment inverser la tendance climatique ? Comment changer le modèle économique pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, voire 2 degrés d'ici la fin du siècle et rester dans les clous de l'accord de Paris ? Car le réchauffement pourrait atteindre plus de 3 degrés en l'absence d'actions additionnelles. Donc, comment éviter les scénarios les plus pessimistes du GIEC tout en continuant à créer de la valeur économique et sociale. Donc, c'est un dilemme. Donc, quel levier activer pour résoudre le dilemme et envisager le meilleur avenir possible ? Donc, plus nous attendons, plus notre liberté d'agir s'atténue. Donc, l'analyse prospective, en fait, ici, elle va buter vers la question de la gouvernance, puisqu'elle ne peut aider à définir les bons leviers qu'à partir du moment où il y a un régulateur, ou mieux encore, un consensus pour activer les leviers tous ensemble. C'est difficile quand il y a tant d'États, tant d'entreprises, tant d'individus et autant de niveaux de décision. Donc la solution est à chercher vraiment dans la nouveauté pour trouver un consensus planétaire. Comment l'obtenir si ce n'est en mobilisant l'imagination, la créativité ? En cherchant également du côté de l'adaptation au changement climatique, du côté de la résilience ou autre chose encore. Donc là, on a du mal parce qu'il n'y a pas de gouvernance. On n'a pas une gouvernance planétaire.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de gouvernance mondiale qui ferait consensus sur ce sujet-là. Et l'actualité du moment nous démontre même un peu le contraire. Autre question, un exercice de prospective est sans doute plus simple à réaliser quand le sujet est plus circonscrit, ou en tout cas on a l'impression de mieux pouvoir le maîtriser que celui du changement climatique qu'on vient notamment d'évoquer, dont les impacts sont planétaires. Est-ce que c'est plus simple si le sujet est plus facile à maîtriser ?
Bien évidemment, en fait, les impacts, comme tu le dis, sont planétaires, mais aussi il y a énormément d'actions et de décisions éparpillées avec beaucoup d'acteurs. Donc, c'est difficile. Mais quand on a commencé par l'exemple le plus dur, mais quand on va appliquer la prospective et la prospective stratégique à une entreprise ou bien à la mairie d'une ville, par exemple, c'est plus facile parce que on peut identifier le décideur, le centre de décision. Ça se fait plus aisément que pour le village Terre et tous les terriens.
Évidemment.
Donc, si on a identifié au préalable le décideur, le centre de décision, on a réussi à expliciter les valeurs qu'il défend et ses leviers d'action, on va pouvoir avancer pour faire un exercice de prospective qui permette de préparer le futur dans une bonne direction. On va commencer par comprendre les valeurs communes à l'entreprise, sa raison d'être, sa culture. Et puis, on va, grâce à ça, pouvoir identifier parmi les futuribles, tous les futurs possibles, les futurs qui sont désirables. Et lorsque l'incertitude est très grande, on parle de futurs désirables, d'inconnus désirables.
D'accord.
Et là, ça va dépendre des entreprises. Certaines vont être fascinées par un futur qui est porté par l'intelligence artificielle, la data, la big tech. Mmh. D'autres vont préférer un futur où les relations humaines sont au cœur de l'entreprise. Mmh. Donc, en fonction des valeurs, on va pouvoir orienter et définir les leviers d'action en constituant une équipe de prospective au sein de l'entreprise qui participe à la démarche, qui se l'approprie. On peut inviter des experts extérieurs pour élargir le champ de vision, tout en préservant le socle commun des valeurs qui sont partagées. Et on commence l'exercice en mettant en place des ateliers, en fixant aussi un horizon prospectif en fonction des sujets, des objectifs visés. Ça peut être 10 ans, 20 ans ou plus.
Donc ces experts sont invités à travailler ensemble sous forme d'atelier, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous donner un certain nombre de détails sur comment justement se déroulent ces ateliers prospectifs ?
Alors, avec Adéquat Consulting, qui est fortement influencé par l'école française de prospective, mmh. Il n'y aura pas de science-fiction, quoique. On va toujours commencer par une approche scientifique qui permet d'identifier les grandes tendances qui viennent du passé, équilibre géopolitique, habitudes sociétales, démographie, évolution technologique, et demander aux membres du groupe prospectif de repérer ce qu'on appelle les signaux faibles, oui. Les faits porteurs d'avenir, qui sont susceptibles de provoquer des ruptures de tendance d'ici 10 ans, 20 ans, selon l'horizon choisi.
Oui, ce sont des choses, quand tu dis signaux faibles, c'est-à-dire qu'à côté desquelles on peut passer, mais qui auront finalement un impact sur les changements futurs.
C'est ça. Mmh. Et là, on est dans un exercice qui est tout de même orienté vers un sujet précis. On s'adresse à une entreprise qui, ouais, est dans un domaine d'activité. Donc, on va faire une prospective sur son domaine d'activité. Sa problématique. Mmh. Et on... Comme tu le disais, on invite des experts, mais on invite, je dirais, dans ce groupe, beaucoup de personnes qui sont partie prenante à l'intérieur de l'entreprise.
Bien sûr.
Parce que l'exercice est, je dirais, plus important dans sa façon de progresser que dans le résultat à la fin.
Oui, je vois. Mmh.
La démarche est plus importante que le résultat. Ça n'est pas un rapport que l'on rend, c'est plutôt un consensus, une vision commune d'un futur désirable et la façon d'y aller. Donc, quand on est bloqué, quand on ne trouve pas les bons leviers, on va faire appel à ce moment-là à la créativité du groupe. On va mettre la créativité du groupe à l'honneur pour envisager des leviers d'action tout à fait nouveaux, qui, mmh, permettent de sortir de l'ornière, d'éviter la concurrence, de résoudre, mmh, des dilemmes, d'agrandir un marché, voire qui permettent d'anticiper des environnements qui sont encore inconnus.
Oui, oui. Mmh.
Donc, imaginez l'inimaginable. Et ça, c'est difficile. Pourtant, il faut le faire pour être préparé.
Oui, compétitif et avoir un temps d'avance sur d'autres. Quand tu es dans un milieu concurrentiel...
C'est ça, si on ne fait que suivre la demande actuelle pour un marché, eh bien on va rapidement...
Oui, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, tu sois plus intéressant, quoi, finalement.
Donc quel est l'inconnu marché, mm-hmm. Quel est l'inconnu technologique? Il faut se...
Ça me rappelle un exemple pour avoir côtoyé un peu le monde du cinéma, de la société Kodak, qui n'avait pas vu venir le numérique... et qui est resté sur l'argentique pendant très longtemps, et qui s'est retrouvé, comme tu le disais, face au mur, et qui n'a pas su prendre le virage à temps, et qui s'est trouvé dans une difficulté mortifère. Quoi.
C'est exactement ça. Mmh. D'autant plus qu'il y avait le signal faible, parce qu'il y avait quelqu'un dans l'entreprise, mmh, qui avait parlé de cette solution, mmh, et il n'a pas été cru, parce, voilà, que ça pose aussi la question du management de l'innovation, du management des personnes qui sont créatives, mmh, des personnes qui raisonnent un peu différemment.
Oui,
il faut les intégrer.
Et se heurter à la résistance au changement, en fait.
Aussi. Mmh. Et puis, on n'y croit pas.
Oui, bien sûr. Mmh.
On n'y croit pas. D'où l'intérêt d'amener dans des exercices de prospective l'ensemble du groupe, pour faire adhérer les gens.
Oui, tout à fait.
Et les faire aller jusqu'à imaginer des choses différentes de façon, je dirais, progressive jusqu'à la fin de l'exercice. Et de fait, les exercices qui vont être faits vont aboutir à des scénarios de projection qui vont faire jouer conjointement des méthodes de prolongement de tendance, puisque malgré tout, il y a des inerties qu'il faut prendre en compte, et de créativité. Donc, chaque exercice de prospective va être un mélange différemment dosé de continuité et de rupture.
Oui, c'est un savant dosage.
Et ensuite, une fois qu'on a ça, il faut pouvoir raconter l'histoire. Il faut pouvoir écrire ou dire un récit cohérent pour apporter aux décideurs des recommandations stratégiques pour le long terme, y compris des recommandations qui permettent d'être résilient à un environnement non imaginable aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, c'est ça.
Donc, savoir aussi s'adapter à quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, dans les leviers, il y a toute la flexibilité, toute la façon de ne pas miser tous les œufs dans le même panier, mais d'avoir des stratégies...
Oui, à différents niveaux, à différentes visions.
C'est ça.
Qui permettent d'avoir cette capacité de convaincre le décideur. Parce que je parlais de résistance au changement, c'est d'arriver à convaincre quand même un décideur que les choses risquent de se passer comme ça à horizon 20, 30 ans, alors que lui, il est souvent dans le quotidien, ou en tout cas dans une perspective à plus court terme, même s'il essaye de voir loin. Mais si loin, ce n'est pas toujours facile.
Tout à fait. Et oui, exactement.
Est-ce que tu as justement pour qu'on puisse matérialiser un peu les choses, des exemples de sujets de prospective qui pourraient nous éclairer ?
Alors, les exemples que j'ai fait récemment, des analyses prospectives sur le tourisme en 2040 en région parisienne, basées sur une analyse des tendances sociétales que j'ai réalisées avec des jeunes qui sont... en plein dans la mouvance des réseaux sociaux et qui voient venir des choses sur les envies touristiques. Donc, on a fait ça avec des jeunes étudiants, basés donc sur une analyse des tendances sociétales, une production de ciment entièrement décarbonée en France en 2030.
D'accord.
C'est varié. Hein. Des réacteurs nucléaires du futur qui soient flexibles. Et tout à fait intégré dans le mix énergétique en 2050.
D'accord. Ouais.
L'avenir du New Space d'ici 25 ans ou peut-être 40 ans. À chaque fois, le décideur est identifié et ses valeurs sont explicitées.
Et vous êtes un petit peu, quand on regarde ces exemples-là, les prospectivistes sont un peu des réconciliateurs, notamment par exemple sur la question énergétique, arriver à faire en gros... travailler ensemble ceux qui sont pro-nucléaire avec ceux qui sont anti-nucléaire et de faire se mélanger finalement les solutions pour qu'aucune d'entre elles ne soit définitivement ou totalement écartée, mais s'intègre intelligemment l'une avec l'autre.
Oui, c'est ça. De toute façon, la vision prospective est une vision systémique. Donc ensuite, les solutions que l'on apporte, ça sera toujours des solutions... c'est pas forcément des compromis, mais c'est des solutions qui s'intègrent dans quelque chose qui est large. On a une vision assez large des problèmes, puisque c'est...
Et donc des possibles.
La clé de la prospective, c'est de voir, on dit, voir loin, voir large.
Oui.
Et il y a aussi des études prospectives qui peuvent s'appliquer aux institutions ou aux ménages, aux individus.
Oui, parce que ça ne concerne pas simplement les grandes structures, les entreprises, mais ça peut aussi, si on caricature un peu, nous toucher au quotidien, quoi.
L'attitude prospective, elle, une fois qu'on l'a, on l'applique, j'irais, sans s'en rendre compte. C'est Gaston Berger qui écrivait « C'est un regard qu'on jette sur le passé, puisque de ce côté-là, il n'y a plus rien à faire. C'est un projet qu'on forme pour l'avenir, car là, des possibilités sont ouvertes.
Mmh. Oui, donc c'est une question de posture. Quoi,
c'est ça, c'est une attitude. Mmh. C'est une attitude prospective. Si jamais tu as un projet d'aménagement d'une vieille ferme, en Normandie, hein, par exemple,
au hasard.
Au hasard, ton attitude prospective va t'aider à imaginer des solutions qui sortent des sentiers battus. Tu peux à la fois préserver des matériaux anciens, l'histoire du lieu, tout en t'inscrivant dans l'habitat de demain avec des codes sociétaux de tes petits-enfants et du futur.
D'accord.
Tu es capable d'associer tout ça pour finalement la maison, ton futur désirable d'habiter.
Oui, non, c'est passionnant, effectivement. Et cette dernière question, en fait, démontre bien qu'il ne s'agit pas... que le sujet de la prospective ne concerne pas seulement des grands penseurs, des grands scientifiques, mais au-delà de cela, il y a une application dans notre quotidien et dans notre façon de penser nos vies, la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Et donc ça, c'est à la fois passionnant et déterminant. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet de la prospective ?
Mais je pense que nos dirigeants devraient écouter l'émission. Bon. Écouter de toute façon.
On va tout faire pour.
écouter aussi ce que disait Talleyrand, hein, quand il est urgent, c'est déjà trop tard.
Eh oui.
Et qu'ils se forment à la démarche prospective, qu'ils adhèrent à l'attitude prospective pour éviter de décider face au mur lorsque la crise est déjà là.
D'accord.
Ouais. Et qu'ils aient vraiment une vision large pour prendre en compte beaucoup d'acteurs et imaginer qu'est-ce qui se passerait si, pour éviter les catastrophes.
Ta conclusion résonne d'autant plus fort compte tenu de la situation que connaît un certain pays dans lequel nous vivons. Mais voilà, le Radio Girafe est résolu à ne pas faire de politique. Donc. Mais là, c'est simplement, effectivement, souligner l'importance de cette posture, de cette attitude nécessaire, utile, aussi bien aux dirigeants qu'à tout un chacun, d'avoir cette approche, de voir un peu plus loin que le bout de son nez, si je puis dire.
D'anticiper
les choses. Alors, comme tu le sais, dernière question qui est posée à tous les invités. Tu es sur Radio Girafe, donc la question fatidique, c'est quelle girafe penses-tu être ?
Alors, une girafe en liberté, dans la savane, où le champ de vision est large et lointain. Et c'est sûr que je ne souhaiterais pas du tout être une girafe en captivité. Et je suis vraiment... Je te félicite d'avoir appelé cette radio aux girafes.
Bah écoute, je te remercie infiniment.
Parce que je voudrais vraiment qu'on ait une pensée pour cet animal, comme tous les animaux d'ailleurs, majestueux, sauvage, qui a su s'adapter au fil des années à son environnement. Un long cou, un gros cœur, une langue bleue. C'est aussi une capacité d'adaptation au changement.
Tout à fait. C'est très juste.
Hélas, elle est menacée par la cupidité de certains hommes qui ne voient que leur intérêt à très court terme.
Écoute, je te remercie infiniment pour cette présentation de la prospective, pour cette conclusion, pour ce message de soutien à l'animal girafe, mais aussi à la radio girafe, pour qu'elle ne soit surtout pas en voie d'extinction, mais au contraire de développement grâce à vous, grâce à tous les invités que nous recevons. Et je te remercie encore, Nathalie.
Mais merci infiniment
d'avoir accepté cette invitation. Et je remercie bien sûr tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans le cadre de mon émission, donc autour d'eux. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, comme vous le savez, sur notre toute nouvelle application téléchargeable, aussi bien sur l'Apple Store que sur le Play Store. Et je vous rappelle que vous pouvez également adhérer et devenir membre de notre association Radio Girafe via le site internet de Radio Girafe ou via l'application que je viens de citer. Vous êtes bien sur Radio Girafe, Normandie, et je suis Frédéric, le F de Girafe, et on se retrouve très bientôt. Merci à tous.